Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Mathilde Deleuil de l'équipe Podcasting.
Aujourd'hui, nous consacrons cet épisode à un article de la revue Far West. Son titre, « La rue, c'est le qui-vive permanent ». C'est votre article. Bonjour, Alban Dejon.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pigiste pour la revue Far West, ponctuellement photojournaliste pour Libération et vos photographies sont orientées vers les questions sociales. Dans l'article que nous avons choisi aujourd'hui, vous retracez le parcours d'Anne-Marie, une femme de 66 ans qui vit aujourd'hui dans la rue à Bordeaux. On va revenir sur les différentes étapes de sa vie, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer le point de départ de cet article ? Est-ce que vous cherchiez à raconter l'histoire de quelqu'un qui a vécu les confinements, la crise sanitaire dans la rue, et vous avez rencontré Anne-Marie dans ce cadre ? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est une rencontre par hasard avec Anne-Marie qui vous a donné envie de raconter son histoire ?
Pour répondre à la question, c'est un peu les deux. C'est des questions auxquelles je me suis pas mal intéressé ces derniers temps. Et avec Anne-Marie, ça s'est fait de manière assez hasardeuse, où en fait j'étais en restauration, en extra en restauration, et cette dame est venue boire un café en fait au resto où je travaillais, et on a commencé à parler, et quand elle a commencé à me raconter son histoire, ce qu'elle faisait, la situation qu'elle vivait, ben j'ai voulu en fait entamer un article ou au moins commencer à la suivre pour étayer un peu plus ma documentation qui était en cours sur le sans-abrisme, sur les personnes qui étaient à la rue, que ce soit en squat ou plus singulièrement comme Anne-Marie, complètement à la rue, dans la solitude que ça peut entraîner.
Et est-ce qu'elle a accepté facilement de se confier sur son parcours et au-delà de ça, accepté facilement que vous en fassiez un article ?
Plutôt, oui. Elle a pas eu de problème à parler en fait de sa situation. Anne-Marie, c'est quelqu'un qui n'est pas en fait vraiment pudique sur son histoire, parce que comme elle me l'a dit plusieurs fois, si ça peut soit l'aider elle, soit aider les autres. Et les autres, j'entends par là nous-mêmes, c'est-à-dire à comprendre ce qui se passe pour ces personnes-là, ben c'est utile. Et du coup, elle en a parlé assez facilement. Oui.
Et est-ce que vous avez échangé avec d'autres personnes sans-abri pour d'autres articles ? Vous parliez de documentation sur le sujet ou uniquement avec Anne-Marie ?
Alors, il y en a eu d'autres, notamment pour la rue Far West, où j'ai couvert en fait l'ouverture d'un grand squat qui s'était fait... alors, si ma mémoire est bonne, c'était en 2018-2019. Qui était la zone libre, qui était un grand squat à ce nom, dans un ancien EHPAD. Et donc ça a été ouvert en fait avant la période hivernale assez rude pour pouvoir mettre plusieurs personnes à l'abri, et notamment des familles. Et à partir de là, j'ai filé toute une documentation sur ce coin, qui a donné lieu à une exposition il n'y a pas longtemps avec l'association C'est dans la boîte, en compagnie de Ken Wong-Yung, qui est plus connu sous le pseudonyme de l'œil de Ken, et Loïs Mugen, un autre photoreporteur sur la région bordelaise. Ensuite, oui, j'ai pas mal suivi les maraudes, et après d'autres personnes de manière un peu plus individuelle à la rue, notamment sur le pourtour des Berges-Lacs. Je pense à mon ami André, qui vit dans une petite cabane là-bas, et avec qui j'ai fait quelques photographies pour documenter un peu tout ça. Mais c'est une documentation qui est en cours, puisqu'elle est tellement protéiforme, tellement compliquée, tellement variée, en fait, dans les profils, que ça demande beaucoup de temps, et voilà.
Et c'est quoi l'objectif de cette documentation ? Quel résultat final vous espérez avoir ?
C'est assez difficile à dire. Je pense que c'est d'abord un effort qui est personnel, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer dans notre époque. C'est-à-dire que moi, ce que je considère à travers les photographies, à travers cette documentation-là, c'est que justement les profils, ils sont d'une variation qui est extrême. Si on prend le cas d'Anne-Marie, c'était quelqu'un qui était quand même plutôt bien inséré dans le monde, dans le monde économique, le monde social. Et c'est un accident de vie. C'est le décès de son père qui a précipité en fait cette descente-là. Et donc c'est essayer de comprendre quels sont les rouages en fait qui se mettent en place quand on arrive à la rue. En fait, est-ce que c'est par un incident administratif, est-ce que c'est par un incident économique, est-ce que c'est par un traumatisme personnel, ou alors c'est par le fait de l'immigration. Il y a aussi beaucoup de cas comme ça. Et donc c'est tenter en fait de faire une espèce de cartographie, au moins sur la région bordelaise, de ce qui se passe, de quelles sont les personnes en fait qu'on croise dans la rue. Quelles sont leurs histoires? Est-ce qu'il y a des histoires qui se répètent, ou au contraire, eh bien, à chaque fois, c'est un peu des situations qui sont singulières?
Rows of houses are burned down on me. I can feel the hands touching me. Oh, this thing's a two-position. Oh, this thing's a one-day swallow hole.
On va revenir sur l'histoire d'Anne-Marie. Est-ce que vous pouvez nous retracer sa jeunesse d'abord ?
Alors la jeunesse d'Anne-Marie, c'est plutôt vers le pourtour parisien. Donc, comme elle-même, elle a pu le dire, la mauvaise éducation versaillaise, de manière un peu cynique. C'est-à-dire que c'est le schéma classique de la famille où le père ramène l'argent et la maman s'occupe de l'éducation. Et à partir de là, je pense qu'on a tous plus ou moins vécu ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire des cursus universitaires, soit qui sont bien entamés et après terminés, soit qui sont repris, etc. Donc quelque chose de commun, en fait, la jeunesse d'Anne-Marie, elle est commune.
Et vous le disiez, le point de bascule, c'est le décès de son père en 2002 ?
Ouais, en effet. Son père meurt en 2002 et ce qui se passe, c'est que il va falloir recouvrer les dettes qu'il avait contractées avec ses entreprises. Et à partir de là, il faut trouver l'argent. L'argent, il est difficile à trouver. À ce moment-là, Anne-Marie est en intérim. Et il y a toute une période en fait qui va s'accentuer où va avoir du contrôle des services sociaux et de la CAF pour savoir si Anne-Marie, qui vit avec sa mère mais qui n'est pas sur le loyer, mérite bien d'avoir les aides et compagnie. Ça va être sucré parce que justement c'était pas déclaré en tant que tel. Et derrière, plus d'argent parce que les dettes sont là et il faut les payer.
Et donc en avril 2019, elle se retrouve à la rue ?
Ouais, avec sa mère. Ce moment-là qui est, je pense, assez terrifiant en fait à imaginer, où elle se retrouve à la rue avec sa mère, où la première idée c'est d'aller au commissariat pour au moins passer la nuit en garde à vue pour pas dormir dehors. Au final, elles vont se faire héberger quelque temps à l'hôpital, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, elles vont être hébergées dans un petit mobilhome par des gens qu'elles croisent. Et après, elles vont redescendre, en fait, plutôt vers ici, pour essayer d'avoir d'autres solutions. Et il n'y en aura pas vraiment d'autres, en réalité, quoi.
Aujourd'hui, elle est toujours avec sa mère ou elle vit seule dans la rue ?
Elle a perdu sa maman il y a quelques mois déjà, 3 mois. Et elle est toujours en effet à la rue, oui. Ouais.
Thank you.
Comment est-ce qu'elle a vécu les confinements, la crise sanitaire ?
C'est une période qui est un peu à double tranchant. À la fois, le premier confinement, il y avait une espèce de sollicitation, en fait, à la fois des pouvoirs publics qui ont ouvert des places d'hébergement, et à la fois une sollicitation du public pour faire des marottes, c'est-à-dire une espèce de prise de conscience que les gens qui sont à la rue pendant le premier confinement, si on les aide pas, ils vont mourir. Il y a quelque chose qui est dans l'urgence absolue. Et ensuite, les autres, qui sont des, on pourrait dire des pseudo-confinements, là, c'est plus compliqué. C'est presque rentré, en fait, dans une situation un peu habituelle. On est en pseudo-confinement, et en fait, c'est comme ça. On continue, en fait, les petites habitudes, et on pense plus, en fait, à ceux qui sont dehors. Et là, ça a été bien plus compliqué. Et enfin, pour ce qui est de la crise sanitaire, c'est évidemment la frayeur d'attraper la Covid. D'être un peu face à ça, sans savoir, sans être accompagné. Mais en définitive, ce qu'elle m'expliquait, c'est que elle est déjà en situation de péril, en fait, à la rue. Donc la crise sanitaire ne rajoute qu'un point de plus à quelque chose qui est déjà périlleux. Et donc le changement, il n'est pas énorme, à ceci près que il n'y a plus personne, en fait, dehors, à part des gens qui vont faire des maraudes et ou des livreurs à vélo. L'ambiance générale qu'il y avait à Bordeaux pendant ce premier gros confinement-là, c'était des livreurs, des gens à la rue et des gens qui faisaient la maraude. Les maraudes, c'est des systèmes qui sont mis en place pour distribuer soit de la nourriture, soit des produits d'hygiène, soit... Moi, ça m'est arrivé de faire des maraudes avec des associations qui distribuaient des tentes parce que les sans-abri étaient écartés du centre parce que justement, ils bravaient le confinement. Donc la préfecture décidait de les sortir du centre, et donc il y a eu des maraudes spécialement avec des tentes pour qu'ils puissent s'abriter en dehors du centre-ville.
Anne-Marie, est-ce qu'elle s'est déjà orientée vers le SAMU social, vers des centres d'hébergement d'urgence ?
Oui, bien sûr, elle a déjà fait ça, elle le fait très souvent. Néanmoins, il y a deux choses qui sont importantes à comprendre, c'est que les places, elles sont minimes en réalité par rapport à la demande. Les chiffres des associations, on est à peu près à 2000-2500 personnes à la rue dans l'agglomération bordelaise. Les places disponibles comptabilisées par la préfecture, c'est à peu près 1700. Et donc là, déjà, il y a un problème de comptabilité. Et ensuite, c'est un accompagnement qui va être journalier. L'accompagnement qu'on peut trouver là-dedans, il est excessivement ponctuel. Et il peut être difficile, notamment pour Anne-Marie, qui a subi une agression sexuelle dans un de ses centres. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de recours derrière. C'est comme ça. Elle a eu la chance, entre guillemets, de pouvoir être hébergée pendant une nuit. Et derrière, ça s'est très très mal passé. Standing next to me, and the whole world stares like it's really not there on a cold November street. Dizzy boy, he's a man, and there's really no chance that the sun will shine on him. And the whole world smiles as they're passing him by on a cold same time in the morning, same time in the evening, same time in the morning. Some things may never change.
Et vous l'expliquez aussi dans votre article, parfois elle a croisé la route de personnes bienveillantes qui l'ont hébergée quelques jours.
Oui, quelques jours, même un peu plus. Il y a une dame restauratrice qui l'avait croisée, qui l'avait hébergée, qui comprenait pas que c'était possible qu'on puisse laisser quelqu'un, une dame âgée comme ça à la rue pendant si longtemps, donc elle avait l'hébergée quelque temps. Une autre personne aussi qui l'a hébergée dans son appartement pendant le confinement de manière assez régulière. Et oui, ça arrive, bien sûr que ça arrive, mais ça ne peut pas être aperçu comme une solution, en fait, définitive. c'est des solutions, encore une fois, comme le 115 ou comme les centres d'hébergement d'urgence, qui sont ponctuelles et qui ne règlent pas, en fait, la situation dans laquelle peut se trouver Anne-Marie.
Est-ce qu'il y a des endroits où elle peut aller se réchauffer pendant la journée ?
Pendant la journée, oui, il y a quelques restaurants où elle a ses habitudes. Il y a le Wanted Café qui est bien connu à Bordeaux. Après, les lieux où elle va se réchauffer, ça va être des églises, ça va être des transports en commun, ça va être la gare. Tous les endroits auxquels on pourrait penser comme ça, où est-ce que je peux aller me réchauffer sans qu'on me demande quoi que ce soit, ben, ça va être effectivement les transports en commun, les services publics comme les gares ou ce genre de choses.
Comment elle envisage l'avenir ?
Il y a une amertume qui s'est créée chez Anne-Marie qui est assez profonde. Je ne me permettrai pas de répondre à cette question de manière un peu plus approfondie parce que c'est plutôt à elle qu'il faudrait demander ça. Je crois que la situation, l'avenir, il est un peu compliqué pour parler simplement. Et je crois qu'elle est plutôt dans une démarche de au jour le jour, qu'est-ce que je vais faire demain ? Et même minute après minute, heure par heure. Plutôt que qu'est-ce que je vais faire dans un mois ou deux mois ou trois mois.
Vous avez gardé contact avec elle ?
Oui, bien sûr, on se voit assez souvent. Je fais toujours des extras dans le restaurant où on s'est rencontrés. Je leur passe le bonjour, d'ailleurs, c'est Ours Café, qui sont des gens formidables qui n'hésitent pas à lui donner à manger dès qu'elle passe nous voir ou un café. Et oui, il y a une vraie amitié qui s'est créée avec Anne-Marie. C'est une femme qui est touchante au possible, qui est d'ailleurs d'une conversation et d'une culture formidable. Elle a cette blague de dire la mauvaise éducation, mais je pense qu'elle a une éducation qui ferait un peu pâlir pas mal de personnes. Et donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vais boire un café avec elle ou que je prends des nouvelles, parce que c'est pas on peut pas rester de marbre en fait par rapport à ce genre de reportage. Je crois qu'on les fait d'abord parce qu'on tombe sur quelqu'un qui nous intéresse, qui a une forme d'émotionnel qui se crée très rapidement. Et dans ce cas-là, plus que le travail fini, c'est de l'amitié, c'est de l'affinité qui se crée. Donc oui, je la vois encore quelques fois. Ouais.
Merci Alban Dejon d'avoir été avec nous.
Mais avec grand plaisir.
Votre article « La rue, c'est le qui-vive permanent » est à retrouver sur le site de la revue Far West.
Merci Mathilde Leleuil, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari et Marion Ruot. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.